Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous entrons déjà maintenant dans un temps un peu de préparation au temps de Noël, avec déjà l'esprit de pénitence qui est là. Traditionnellement, pendant ce mois de novembre, l'Église nous demande de faire pénitence et de prier surtout pour les âmes du purgatoire. Et ceci est certainement un bon moyen de préparer au temps de l'Avent, qui est le temps traditionnel de pénitence, cette fois-ci pour préparer directement l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos âmes pour la fête de Noël. Et je voudrais un petit peu vous expliquer aujourd'hui pourquoi la pénitence était-elle tellement importante. On peut tout synthétiser par une petite formule toute simple que les pères de l'Église utilisaient très souvent. On peut expliquer comme ça, nature plus la grâce égale la gloire. C'est-à-dire que notre nature étant viciée par le péché originel, nous avons une grande difficulté à prier. Nous avons une difficulté, je dirais naturelle maintenant, à faire pénitence. Une espèce de révolte naturelle dans nos âmes contre toute forme, toute idée même de pénitence. Pourquoi ? Parce que nous sommes corrompus par le péché originel. Et cette corruption du péché originel est tellement profonde que même le baptême, si le baptême en vérité efface le péché originel, le baptême n'efface pas des conséquences du péché originel. Je l'ai déjà souvent parlé, on appelle les blessures. Les puissances de nos âmes sont définitivement blessées par le péché originel, par ses conséquences. Et à cause de ces blessures, nous avons, je dirais, une tendance naturelle à désobéir au bon Dieu. Une tendance naturelle à la faiblesse, une tendance naturelle à la paresse, surtout la paresse intellectuelle, pour ne pas étudier et conserver la foi. Alors, le bon Dieu va donc devoir rajouter à cette nature qui a été blessée profondément par le péché originel, le bon Dieu va devoir rajouter quelque chose de supplémentaire pour nous aider justement à redresser les conséquences du péché originel. Et c'est quelque chose qu'il rajoute, c'est ce qu'on appelle la grâce. Donc on passe de l'état de nature à l'état de grâce. Le bon Dieu est obligé de rajouter quelque chose, de s'implanter dans notre âme, littéralement, on peut aller jusqu'à là, par le sacrement, surtout le sacrement de pénitence et le sacrement de la Sainte Eucharistie. Et par la pénitence, par la Sainte Eucharistie, à ce moment-là, on peut redresser d'une certaine façon cette tendance naturelle que nous avons à cause du péché originel à toujours regarder vers le bas. Et l'arbre de notre âme qui commence à pencher vers le bas, au contraire, va se redresser de nouveau vers le haut. Et par l'intermédiaire de cette tendance, on peut dire, par l'intermédiaire, je veux dire, de cette aide surnaturelle que le bon Dieu nous donne, qui est une aide créée, attention, la grâce est quelque chose de créé dans nos âmes, et par l'intermédiaire de la grâce, à ce moment-là, on peut regarder vers le ciel et regarder vers la gloire. Donc le premier état, c'est la nature. Deuxième état, c'est l'état de la grâce sanctifiante qui vient travailler dans nos âmes. Et cette grâce sanctifiante va nous permettre de monter vers le ciel et d'atteindre la gloire au ciel. Mais il ne faut pas croire qu'on va au ciel en carrosse. On ne va pas au ciel en tapis roulant. Et donc, il y a un combat constant, et c'est ce combat constant qui est tellement pénible pour nous, parce qu'on veut bien se battre, mais à condition que ça ne dure pas trop longtemps. Donc, on voudrait qu'au bout de quelques minutes de combat, bien, le combat s'arrête, et que ça y est, nous ayons la victoire, que nous soyons en paix. Quand est-ce que ce combat s'arrêtera? Ce combat s'arrêtera uniquement à notre mort. Et c'était Saint François de Sales qui avait l'habitude de dire, en parlant de notre défaut particulier, la faiblesse de notre âme, il nous disait, le défaut particulier mourra 10 minutes après votre mort physique. Il faut bien nous faire comprendre que nous aurons à lutter contre ces tendances pendant toute notre vie. Voilà pourquoi un catholique est quelqu'un qui doit utiliser les sacrements à tel point que dans la définition de l'Église, des conditions d'appartenance à l'Église qu'on trouve dans le catéchisme de Saint-Pilice est obligé de donner comme une condition d'appartenance à l'Église l'usage des sacrements, justement. Parce que si quelqu'un n'utilise plus les sacrements, imaginez quelqu'un qui ne se confesse plus du tout. Tu arrêtes toute pratique sacramentelle, tu ne confesses plus, ne communies plus, ceci, puis pendant une longue période de temps, eh bien, littéralement, cette personne, si on prend le texte de Saint Pulice au pied de la lettre, cette personne quitte l'Église. Comme quelqu'un, si vous voulez, qui était dans un hôpital parce qu'il a absolument besoin d'avoir un soin médical, une protection médicale très particulière, et qui disparaît là dans la nature et ne prend plus son médicament de façon habituelle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir de plus en plus faible, finir par mourir. La même chose pour nous. Je dis toujours aux parents, quand les parents sont inquiets, ça arrive souvent, les parents sont inquiets parce que leur grande adolescente dans la maison commence à marquer des signes justement de fatigue spirituelle, d'assédie. Et ils me disent, monsieur l'abbé, on a l'impression que mon grand-fils, ma grand-fille sont en train lentement de perdre la foi. La première question que je vais poser, celle-ci, est-ce qu'ils se confessent encore régulièrement? Pourquoi? Parce que le démon le sait. Le démon sait que tout part de la confession, surtout pour les jeunes. Et donc, quand la maman me dit, ou le papa me dit, mais monsieur l'abbé, il se confesse encore très régulièrement, il aime encore se confesser, alors il n'y a rien qui est perdu. Si au contraire, les parents me disent, monsieur l'abbé, ça fait déjà des mois que ma fille ou mon fils ne se confesse plus, voilà, ça veut dire que la maladie du démon, si vous voulez, la maladie provoquée par le démon est déjà très enfoncée dans l'âme. Oui, mais bien, chers frères, comme il importe donc d'utiliser ces grâces du bon Dieu. Certes, on peut arriver à vivre en état de grâce sans le sacrement de pénitence en soi, mais c'est quelque chose de très difficile. Saint Thomas d'Aquin, au début de sa somme théologique, explique que certaines personnes sont capables de faire ça, mais il dit simplement avec... Il y a peu de personnes qui le peuvent, dit-il. Peu de personnes qui le peuvent, et avec beaucoup de temps nécessaire pour arriver à se remettre sur le bon chemin, à se maintenir sur le bon chemin, avec un grand risque de mélange d'erreurs. On peut bien sûr prouver l'existence de Dieu sans passer par la foi catholique, sans passer par le catéchisme, mais c'est de plus en plus difficile, surtout dans le monde dans lequel on vit. Un deuxième point qui me semble aussi important, c'est que on pourrait résumer ça sous une autre équation toute simple, à savoir la mort plus la souffrance égale la jouissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons encore une fois un combat pour mourir à nous-mêmes. Ce combat de mort à nous-mêmes, c'est un combat terrible entre, d'un côté, notre volonté propre et d'autre côté, la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais plus quel est le fondateur d'ordre qui avait dit ça au début de sa vie religieuse. Il disait, quand je suis rentré en vie religieuse, nous étions deux dans la cellule. Il y a des combats terribles, j'en ai mis un par la fenêtre. Une fois que la deuxième personne en moi est passée par la fenêtre, j'ai eu la paix, j'ai pu commencer ma formation religieuse. Et qui était cette deuxième personne qui a dû passer par la fenêtre, expliquait-il, c'est sa volonté propre. Donc, la première chose qu'il faut faire pour se mettre dans un état d'esprit qui nous prépare justement à accepter la pénitence qui nous rapproche du bon Dieu, c'est la mort à nous-mêmes, la mort à notre volonté propre. Une fois qu'on a passé justement notre vie sur la terre pour nous préparer justement à cette montée au ciel, à ce moment-là, on peut arriver à achever cette préparation de nos âmes par le purgatoire. N'oublions jamais ces choses-là, mes bien chers frères. Nous naissons sur la terre pour mourir. Quel est le but de l'homme? Pourquoi est-ce que mon Dieu nous place sur cette terre? Pourquoi est-ce qu'il nous crée? Il nous crée pour mourir à nous-mêmes. C'est pour ça que la mort est absolument inévitable pour chacun d'entre nous. Donc je suis créé pour mourir, pour me préparer à mourir, et par une mort en état de grâce, préparé évidemment à passer au ciel par l'intermédiaire du purgatoire. C'est pour ça que la deuxième étape de cette équation, c'est toujours la souffrance. La souffrance au purgatoire. Parce qu'une personne qui n'est pas parfaitement pure ne peut pas posséder le royaume des cieux, c'est impossible. Et donc le bon Dieu, même à quelqu'un qui a vécu habituellement en état de grâce, le bon Dieu demande souvent une purification supplémentaire au purgatoire, parce que quelque chose qui n'est pas parfaitement pur ne peut pas posséder Dieu. Et donc je dois mourir à moi-même pour pouvoir souffrir au purgatoire, achever la purification, et à ce moment-là, jouir de la présence du bon Dieu. Alors, posons-nous maintenant la question toute simple, pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire pénitence? La première réponse que donne la Sainte Église, on a besoin tous de faire pénitence pour satisfaire pour nos péchés. J'ai besoin de satisfaire pour mon péché, pour mes péchés, parce que le péché entraîne la fermeture d'une voie rapide pour aller au ciel. J'ai souvent dit, c'est aussi un point important du catéchisme, il n'y a que deux chemins pour aller au ciel, il n'y en a pas trois. Le premier, c'est le chemin de l'innocence, et le deuxième, c'est le chemin de la pénitence. Je parle pour les catholiques. Donc le chemin de pénitence, le chemin d'innocence, c'est un chemin qui ne peut être utilisé que par ceux qui n'ont jamais péché. À savoir, dans la pratique, c'est uniquement le cas des enfants qui meurent après le baptême ou des adultes qui n'ont jamais eu l'usage de raison pour une raison médicale très grave. Donc un bébé qui meurt après le baptême peut utiliser le chemin d'innocence pour aller au ciel. Mais dès que nous avons le malheur de commettre un péché, je dirais même un simple péché véniel, immédiatement la porte, le chemin qui mène au paradis par la voie d'innocence est fermé définitivement. Il nous faut donc prendre un autre chemin pour aller au ciel, qui est le chemin de la pénitence, qui est un chemin beaucoup plus tortueux, beaucoup plus compliqué que le premier. Donc on doit d'abord faire pénitence pour justement arriver à réparer nos péchés. Et il vaut beaucoup mieux faire pénitence ici-bas que faire pénitence au purgatoire, parce que la pénitence ici-bas, je vous ai déjà expliqué, je crois, la dernière fois, la pénitence ici-bas est une pénitence active, donc il porte beaucoup plus de fruits que la pénitence passive du purgatoire. Donc quels sont ceux qui sont dispensés de faire pénitence? Ceux qui n'ont jamais péché. Alors, si vous n'avez jamais péché de votre vie, vous n'avez jamais commis le moindre péché véniel dans votre vie, bien sûr le moindre péché mortel, alors vous êtes dispensé de faire pénitence. C'est assez rare. C'est le cas, c'est la Sainte Vierge Marie. Et elle pouvait aller au ciel sans faire de pénitence. Et elle a voulu faire pénitence pour bien nous montrer l'exemple, puisqu'elle a voulu s'associer à la passion de son divin Fils, parce qu'elle est co-rédemptrice, parce qu'elle est médiatrice de toute grâce. Deuxième raison pour laquelle nous devons faire pénitence, c'est pour nous vaincre nous-mêmes. Je retombe sur ce que je viens de vous expliquer au début de ce sermon. Nous sommes obligés de nous vaincre nous-mêmes, parce qu'il y a encore une fois à cause du combat spirituel. Nous avons ce combat spirituel qui nous oblige en quelque sorte à être toujours sur nos gardes. Comme un soldat, si vous voulez, qui doit être en alerte tout le temps. Un soldat ne peut pas se mettre à dire, en même temps, je m'arrête, j'ai remporté la victoire sur l'ennemi, donc j'ai remporté la victoire sur l'ennemi, donc je peux faire la sieste tranquillement, maintenant me reposer. Non. Imaginez un corps d'armée qui a pris la citadelle qu'ils voulaient prendre, donc ils ont mis en fuite les ennemis, ils ont repris la citadelle. Ils ne peuvent pas dormir. Certes, certains peuvent se reposer, mais l'officier en charge va garder une garde, va garder des gens en garde toute la nuit et tout le jour sur les remparts pour être sûr que l'ennemi ne revient pas. C'est ça la difficulté avec la vie spirituelle, ce combat spirituel dont je vous parle, c'est ce combat spirituel va durer jusqu'à la fin de notre vie. Et tant que nous ne sommes pas arrivés au ciel, eh bien ce combat va durer. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas très facile parce que c'est une source de découragement. Les jeunes surtout se découragent parce qu'ils veulent bien se battre à condition d'avoir un résultat immédiat. Mais un résultat immédiat, ça n'arrive pas souvent. Qu'est-ce que demande le bon Dieu? Le bon Dieu demande à ce que nous battions, même s'il n'y a pas de résultat. Pensez à tous ces saints qui se sont sanctifiés, je pense à ces saints missionnaires qui se sont sanctifiés pendant parfois des années et des années sans aucun résultat concret apparent. Je vous ai souvent donné l'exemple, un des plus beaux exemples que je connaisse dans la vie des saints, l'exemple de Saint-Pierre Chanel. Saint-Pierre Chanel qui a passé sa vie dans les îles du Pacifique à essayer de convertir les âmes dont il s'occupait, surtout aux îles de Wallis et Futuna. Il n'a pas baptisé un seul adulte, rien du tout, personne. Il a réussi à baptiser seulement quelques bébés qui mouraient, donc il a envoyé quelques-uns au ciel, très bien. Il n'a pas baptisé un seul adulte. Il finit par mourir massacré par des Indiens qui étaient à moitié ivres, et il est martyr, Saint-Pierre Chanel martyr, et à ce moment-là, les supérieurs ont envoyé un successeur pour succéder justement à Saint-Pierre Chanel, il est arrivé, tout le monde a demandé le baptême, parce que Saint-Pierre Chanel est celui qui avait planté la graine, Et après que cette graine a apparemment été morte dans la terre, une graine littéralement doit mourir dans la terre avant de pouvoir ressusciter d'une certaine façon et commencer à pointer hors de la terre, sortir une petite feuille verte qui va devenir un arbuste et qui va finir par donner des fleurs et enfin des fruits. Oui, mais bien, chers frères, comme toutes ces choses sont importantes à comprendre, si on comprend toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus facile de se battre. La troisième raison pour laquelle nous devons nous battre, c'est aussi pour obtenir certaines grâces. Beaucoup des grâces que le bon Dieu veut nous donner sont des grâces, ce qu'on appelle des grâces conditionnelles. Le bon Dieu les tient en quelque sorte en réserve pour nous. Mais pour pouvoir les donner, il faut frapper à la porte. Notre Seigneur l'a bien dit. Il a dit, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez, demandez, on vous donnera. Sous-entendu, si je ne frappe pas, si je ne demande pas, si je ne cherche pas, je n'obtiendrai rien du tout. Donc le bon Dieu ouvre son cœur par la pénitence. La vertu de pénitence est certainement le moyen le plus efficace pour ouvrir le Sacré-Cœur. Le bon Dieu, justement, parfois, semble fermer sa porte. Il faut frapper à la porte de façon répétée pour que, justement, cette porte finisse finalement par s'ouvrir pour que nous puissions chercher refuge dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur. Et donc, lorsque nous voulons obtenir certaines grâces particulières, c'est une grâce de conversion, c'est une grâce particulière pour arriver à éliminer, par exemple, certaines faiblesses ou certains péchés particuliers, qu'est-ce qu'il faut faire? Se mettre à genoux pour prier, mais aussi faire pénitence. Évidemment que, quand on fait pénitence en état de grâce, on est beaucoup plus fort encore pour obtenir quelque chose du Sacré-Cœur de notre Seigneur. Un peu comme au début de la vie religieuse, au temps de l'institution des bénédictins par Saint Benoît, donc au début de l'histoire de l'Église, eh bien, c'était la coutume dans les monastères. Parce que quelqu'un venait frapper à la porte du monastère pour demander à rentrer, on le renvoyait, même assez sèchement. On le renvoyait, on n'a pas besoin de vous, il n'a pas la vocation, il n'est pas fait pour ça. Et puis on attendait qu'il revienne, il revenait parfois au bout de 15 jours, 3 semaines plus tard, il venait refrapper à la porte du même monastère, en demandant à rentrer. Et là encore, le père Abel disait, on n'a pas besoin de vous, on n'a pas besoin de vous, vous n'êtes pas fait pour ça, partez. Et il était obligé de revenir une troisième fois. À ce moment-là, le père Abel pouvait voir, il y a vraiment, cette personne a la suite dans les idées, elle veut vraiment faire quelque chose. Et puis, à ce moment-là, on entrait, la personne pouvait rentrer et commencer son postulat. Je me rappelle très bien, Monseigneur Lefebvre faisait exactement la même chose avec nous au séminaire. Parce que nous sommes rentrés, parce que je suis rentré au séminaire en 74, la première chose que j'ai eue, c'est des humiliations. Et ces humiliations étaient nécessaires pour que justement nous puissions vaincre notre volonté propre, surtout à nous qui étions, la plupart des jeunes qui sont rentrés avec moi, nous étions, on fait des études supérieures et donc nous étions un peu pleins de nous-mêmes. J'ai souvent raconté, je raconte souvent ce détail, mais je vais vous le dire pour que ça vous aide à comprendre comment justement le bon Dieu brise une volonté propre. Parce que je suis rentré au séminaire, eh bien, Monseigneur Lefebvre, pour la première journée, on faisait le travail manuel pratiquement tous les jours, la première journée, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, vous allez prendre un seau, du savon, une brosse, et vous allez nettoyer toutes les toilettes du séminaire. J'ai dit, moi ? Il m'a dit, oui, vous ? J'ai pris mon seau, mon savon, je suis allé nettoyer toutes les toilettes du séminaire. Et c'était comme ça presque tous les jours. Presque tous les jours, en première année, nous avions des humiliations de ce genre pour nous aider à avoir justement, pour nous aider à comprendre l'importance des vertus de pénitence. On est rentré à 41, on est sorti à 15. Parce que 41 séminaristes à 15 séministes à l'ordination. Parce que justement, il y en a qui ne comprennent pas l'importance de cette vertu de pénitence. Alors, mes bien chers frères, ayant le courage de chercher, de demander au bon Dieu quelles sont les pénitences que je dois faire. Je dirais, demandons au bon Dieu de choisir les pénitences pour nous. Certes, on peut choisir certaines pénitences par nous-mêmes, mais pour être sûr qu'on fasse encore plus plaisir au bon Dieu, le mieux c'est de choisir, accepter les pénitences que lui nous envoie. Qu'on appelle la volonté de bon plaisir. La volonté de bon plaisir, c'est la volonté qui est manifestée par les choses de tous les jours. La chaleur, le froid, la faim, la soif, etc. Les petites choses de tous les jours que le bon Dieu nous demande d'accepter avec un grand sourire. C'est comme ça qu'on sanctifie. Une personne qui accepte justement de faire la volonté du bon Dieu avec un grand sourire, eh bien c'est une personne qui arrive à se sanctifier, jamais manifester justement ses sentiments. Une fois, je vous donnais un petit détail sur la vie de Mgr Lefebvre. J'étais formé par lui, donc je n'ai pas oublié tout ce que j'ai reçu de lui. Eh bien, je me rappelle au séminaire, on a toujours essayé, entre séminaristes, on a essayé de savoir qu'est-ce que Mgr Lefebvre aimait, qu'est-ce qu'il n'aimait pas en matière de nourriture. On n'a jamais été capable de répondre à cette question. Parce que Mgr Lefebvre était justement quelqu'un qui ne manifestait jamais un dégoût pour quoi que ce soit. Quel que soit ce qu'on lui donnait, c'était toujours bon. On arrivait, j'ai vu ça aussi avec Mgr Lefebvre au Mexique, quand il était reçu par exemple dans des villes du sud du Mexique, l'état de Oaxaca au sud avec la frontière avec le Guatemala, eh bien dans des zones très très pauvres, des endroits où il n'y a pratiquement aucun confort, il n'y a pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de route, rien du tout, Mgr Lefebvre était parfaitement à l'aise. Enfin, il y avait des gens qui étaient complètement illettrés, parfaitement à l'aise. 2 jours plus tard, il était à New York pour donner une grande conférence à des gens de la haute société new-yorkaise. Il était aussi parfaitement à l'aise. Pourquoi? Parce que justement, il avait cette union constante à notre Seigneur Jésus-Christ. À partir du moment où on est uni à notre Seigneur Jésus-Christ, par la vertu de pénitence, par l'état de grâce, à ce moment-là, on est toujours content, toujours heureux. Alors il faut demander au bon Dieu justement cette grâce. Les gens qui sont malheureux sur la terre sont des gens qui n'arrivent pas justement à accepter la volonté du bon Dieu, qui veulent en faire qu'à leur tête. Et évidemment, tant qu'on n'en fait qu'à notre tête, on n'arrive jamais à se sanctifier. Parce que l'orgueil est la pire chose pour bloquer l'entrée d'état de grâce dans une âme. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons cette grâce de comprendre toutes ces choses. Passons par la Sainte Vierge Marie. Il y en a une qui nous a donné l'exemple de la vie de pénitence, c'est bien elle. Elle aurait pu utiliser son titre de reine du ciel, son titre de mère de Dieu, pour se dispenser de certaines souffrances. Elle a souffert presque autant que notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'elle a voulu être là avec son Fils, marchant pas à pas, je dirais, portant la croix avec son divin Fils, parce que son rôle de mère l'obligeait à être celle qui portait la croix avec son Fils qui souffrait pour nous. Elle aurait pu dire, mais moi je suis immaculée conception, je n'ai pas de péché, donc je n'ai pas besoin de souffrir. Elle aurait pu dire ça. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle a accepté justement de souffrir. Alors demandons cette grâce au bon Dieu, demandons cette grâce par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie d'aimer faire pénitence et d'aimer accepter. La meilleure pénitence, je vous l'ai dit, à faire, c'est d'accepter tout simplement toutes les petites difficultés de la vie de tous les jours que le bon Dieu nous envoie, mais d'accepter avec humilité, avec une grande grandeur d'âme pour que justement ces petites pénitences de chaque jour soient sanctifiées et puisse être utilisé par le bon Dieu comme un moyen d'augmenter pour nous la gloire que nous aurons au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.